Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, celui qui, à la tête du gouvernement anglais pendant 20 ans, fut le pire ennemi de la Révolution française et de Napoléon, William Pitt. Mal vêtu, sans plaisir et sans passion, avide seulement de pouvoir, il méprisait les honneurs et ne voulait être que William Pitt. Chateaubriand. Dominant d'histoire. Si, après avoir vaincu la France en 1815, l'Angleterre est devenue la plus grande puissance du 19e siècle, elle le doit moins à la victoire de Nelson à Trafalgar ou à celle de Wellington à Waterloo qu'à celui qui, à la tête du gouvernement britannique pendant plus de 20 ans, fut le pire ennemi de la Révolution française et de Napoléon, William Pitt. Il était pourtant arrivé au pouvoir à un des moments les plus sombres de l'histoire de son pays, lorsqu'après avoir perdu ses colonies d'Amérique, l'Angleterre se trouvait dans une situation politique, sociale et financière désastreuse, et quand, pour y faire face, le roi George III avait surpris la Chambre des communes en nommant à la tête de son gouvernement un homme de 24 ans à peine. William Pitt, dont les députés anglais n'imaginaient pas qu'il deviendrait un jour un des plus grands premiers ministres de leur histoire.
Tous ces tralala vous amusent, monsieur Pitt ?
Non, monsieur Fox.
Rien ne trouve grâce à vos yeux, monsieur.
Un budget équilibré, monsieur. J'adore regarder un budget en hausse.
Nous, George III, en cette année 1788 de notre Seigneur, en ouvrant la session de ce Parlement, décrétons que notre volonté et notre plaisir sont que les lois suivantes soient entérinées par cette Assemblée. Une loi visant à réglementer le commerce avec nos possessions de l'Amérique du Nord, nos anciennes possessions d'Amérique du Nord. Ensuite, une loi...
Il est clair que le roi n'a pas écrit le discours qu'il prononce, M. Pitt.
Le roi fait tout ce qu'on lui dit, M. Fox.
Le roi fait tout ce qu'on lui dit et pendant 20 ans, il fera à peu près tout ce que lui dira son premier ministre, William Pitt. Édouard Ziembowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférences à l'Université de Besançon, spécialiste de l'histoire de la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, un siècle dont l'histoire en Angleterre a été marquée par deux hommes, deux premiers ministres qui se sont succédés à la tête du gouvernement, un père et son fils qui portaient tous les deux le même prénom, les deux William Pitt, auxquels vous venez de consacrer une biographie chez Perrin. Mais nous parlerons aujourd'hui essentiellement du second Pitt, le plus jeune, qui a ceci d'extraordinaire, même aujourd'hui, et peut-être même encore plus aujourd'hui qu'il y a deux siècles, dans un pays comme le nôtre où on ne confie le pouvoir qu'à des gens, nettement plus âgés. C'est là, justement, qu'avait William Pitt quand il est devenu Premier ministre en 1783. Il avait 24 ans. Je crois que c'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire.
Je crois, oui, en effet. Ça doit être le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Ce qui est d'ailleurs très, très frappant de voir cette espèce de trajectoire, c'est de rappeler quelques dates. Bon, 1781, Pitt entre à la Chambre des communes. Bon, il a 21 ans. Deux ans plus tard, en 1783, déjà, le roi lui propose le poste de Premier ministre. Il a 23 ans. Et quelques mois plus tard, enfin, il accepte le poste de Premier ministre. Il a 24 ans. Et c'est une trajectoire, d'ailleurs, qui finit tristement, puisque cet homme qui est arrivé au pouvoir à l'âge de 24 ans meurt à l'âge de 46 ans. Donc, et c'est vrai que... Aujourd'hui, à 46 ans, peut-on devenir Premier ministre ?
Oui. Telle est la question. Alors qu'il était à 24. Alors, d'abord, si on lui fait confiance aussi, c'est peut-être parce qu'il a été formé très tôt par un autre grand Premier ministre. C'est tout simplement son père, dont vous parlez longuement. Mais alors, il y a une différence entre les deux hommes, c'est que si le père, le premier Pitt, qui a gouverné l'Angleterre comme Premier ministre pendant assez longtemps, a été un homme, pendant le gouvernement duquel s'est produit la guerre, un homme qui a accordé la priorité à la politique extérieure, son fils, en revanche, au moins jusqu'à la guerre contre la France, s'intéressait essentiellement
aux problèmes intérieurs, un budget équilibré, on l'a entendu, et un commerce qui est devenu, qui a commencé à devenir florissant, Edmond Ziembowski.
Oui, et il est vrai que lorsqu'on examine les deux vies de ces personnages, en apparence, il y a une grande différence. Bon, le père est arrivé au pouvoir au plus fort de la guerre de 7 ans. Il a véritablement incarné cet essor militaire qui a fait de l'Angleterre une grande puissance coloniale. Son fils, en revanche, peut apparaître comme un ministre de paix. Il arrive au pouvoir au moment où l'Angleterre est au plus mal. Elle sort de la guerre d'indépendance américaine.
Qu'elle a perdue.
Elle est totalement fourbue. Les finances anglaises sont au plus mal. Il faut d'ailleurs rappeler une chose, c'est que, vous savez, on dit très souvent que l'une des causes de la Révolution française a été l'état des finances de la France. Or, l'endettement de l'Angleterre est bien supérieur à celui de la France. L'Angleterre est dans un état beaucoup plus pitoyable que la France de Louis XVI en 1783. À cela s'ajoute une agitation intérieure qui est endémique depuis de nombreuses années, le problème de l'Irlande également, puisque à la faveur de la guerre d'indépendance américaine, les Irlandais ont essayé d'avoir une certaine autonomie. Il arrive au pouvoir au pire moment.
Et alors, il lance le commerce, il va s'efforcer de lancer, y compris d'ailleurs avec son futur adversaire, qui est la France. Je crois qu'il a signé un traité de libre-échange avec la France en 1786. Mais c'est vraiment ça qui compte. Il n'est pas question de guerre dans l'esprit de Pitt.
Pas du tout.
Du jeune Pitt.
Pas du tout. Et d'ailleurs, lorsqu'il présente le fameux traité de commerce de 1786 avec la France, il a cette phrase qui a d'ailleurs frappé la Chambre des communes, où il dit « Je ne crois pas à l'ennemi naturel. Pour moi, c'est quelque chose d'absurde, de monstrueux. » Même il emploie le mot monstrueux. Pour lui, la France n'est pas du tout l'ennemi naturel.
Alors, ça changera plus tard. Parmi les autres problèmes que rencontre Pitt, il y en a un qui est très grave, qui est tout simplement la folie du roi Georges III. Premier accès de folie en 1788, qui va poser évidemment un problème institutionnel, mais une folie que Pitt, à l'Assemblée, essaye de minimiser la gravité donc de cette folie.
Les honorables membres de cette assemblée se réjouiront, j'en suis certain, de savoir que j'ai vu le roi hier et que le seul symptôme de désordre est une tendance à se répéter et à sauter sans cesse d'un sujet à l'autre. Messieurs, à entendre vos débats, cette propension entraînerait l'enfermement d'une bonne part de cet assistant.
Monsieur Fox, Monsieur Pitt n'abusera pas la chambre avec ses sarcasmes qui se veulent rassurants.
Ouais, c'est ça.
Je crains que le roi ne soit plus en état. Il y a ceux qui disent que le roi a perdu la raison. Et dans ce cas, je propose la mise en place d'une loi permettant au prince de Galles d'être régent.
Problème, Edmond Ziembowski, auquel est confrontée l'Angleterre à un moment crucial de son histoire, la folie du roi, ou le premier accès de folie de ce roi, Georges III, qui était atteint, je crois, d'une crise de porphyrie. C'était quand même un problème grave.
Exactement, c'est un problème très très grave. Cette crise de folie, oui d'abord, bon, vous peut-être rappeler exactement de quoi il s'agit. La porphyrie est une maladie héréditaire qui a frappé plusieurs dynasties d'Europe. Et dans les cas les plus graves de cette porphyrie, eh bien, cela peut déboucher à des accès de démence. Et Georges III tombe brutalement malade à la fin de l'année 1788. Et cela débouche sur une espèce de crise constitutionnelle. Parce que le problème est celui-ci. Que faire désormais? Le roi étant dans la capacité totale de gouverner, il faut donc proclamer une régence. Le problème est celui-ci. C'est que le prince régent, le futur Georges IV, est très proche de l'opposition parlementaire, qui est dont le chef est Fox, hein, qu'on vient d'entendre d'ailleurs. Et ce que souhaitent Fox et ses amis, c'est une régence pleine et entière. Ce qui aboutirait finalement au retour d'un groupe politique qui avait monopolisé le pouvoir depuis de très longues décennies, bon, qui avait instauré une espèce d'oligarchie, et Pitt est totalement opposé à cela. Ce qu'il souhaite véritablement, eh bien, c'est d'instaurer une vie politique beaucoup plus saine, beaucoup plus transparente, et ne souhaite sûrement pas ce retour en arrière.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne veut pas de la régence et qu'il fait en sorte que le roi se maintienne au pouvoir.
C'est-à-dire qu'il joue l'horloge. Bon, il est persuadé que George III va pouvoir être rétabli, notamment on a fait appel à un soi-disant spécialiste des maladies mentales, un certain Willis, qui administre d'ailleurs des remèdes assez brutaux au roi, et en effet d'ailleurs George III eh bien, se rétablit. Il se rétablit au bout de quelques mois.
C'est une rémission, parce que ça reviendra plus tard. C'est une maladie récurrente. Oui. En tout cas, l'état de santé de George III s'améliore dès le début de l'année 1789, et au moment où les Anglais apprennent le déclenchement de la Révolution française, la chute de la Bastille. Et là, chose étonnante, l'homme qui deviendra, William Pitt, qui deviendra un adversaire acharné de la France, de la Révolution française et plus tard de l'Empire, lui, eh bien, il voit ça plutôt d'un bon œil. Il dit, bien, au fond, c'est pas mal. Et puis, c'est d'autant mieux, d'ailleurs, que ça va affaiblir la France et permettre à l'Angleterre de prendre son essor. Mais disons qu'il n'est pas question pour l'Angleterre, contrairement à d'autres grandes monarchies européennes, de réagir à l'annonce de la Révolution française, Edmond Dembowski.
Oui, pour bien comprendre l'attitude de Pitt, il faut rappeler qu'on a affaire à un homme politique d'un genre nouveau. Pitt est jeune, bon, on en a déjà parlé, c'est un homme des Lumières, de l'Enlightenment anglais. Et il est très très proche des idéaux de la France de 89. Il faudrait surtout pas croire qu'il a brutalement basculé dans une espèce de croisade contre-révolutionnaire, bien au contraire. Notamment lorsque Necker revient au pouvoir, il est vraiment ravi. Ensuite, il prononce un grand discours en février 1790, dans lequel il dit, eh bien, la France désormais vivra dans cette liberté que moi-même je chéris.
D'autant plus qu'au début, la Révolution française met en place une monarchie parlementaire. Hein. Il ne faut pas oublier entre 89 et 92. Alors, cela dit, les choses vont rapidement changer. Et en 1793, après l'exécution de Louis XVI, on entend Pitt engager son pays dans une guerre contre la France qui va durer plus de 20 ans.
Mr. William Pitt, on the most groundless pretenses, the Assembly now exercising the powers of government in France, has declared war against his majesty.
Sans raison, la France a déclaré la guerre à Sa Majesté. Devant cette agression injustifiée, Sa Majesté est sûre de pouvoir compter sur le zèle, le courage et la loyauté de son peuple pour s'engager dans cette guerre juste et nécessaire.
Raison, Edmond Dembowski, pour laquelle Pitt, après avoir très mesuré, avoir plutôt bien accueilli l'idée d'une révolution française, se met brusquement à entrer en guerre en 1793, c'est-à-dire quand même 4 ans après la chute de la Bastille, contre la France.
Il n'y a pas une raison, il y a plusieurs raisons. La première, sans doute, eh bien, c'est l'évolution du climat politique en Angleterre même. C'est-à-dire que pendant l'année 1792, on voit paraître ce qu'on appelle un radicalisme populaire, essentiellement républicain. C'est ce qui est nouveau
en Angleterre.
En Angleterre et au sein de ces groupes radicaux, ces sociétés populaires, il y a une admiration vraiment sans borne pour la France, et une admiration d'ailleurs qui s'accroît après le 10 août qui marque la fin de la monarchie.
Le 92.
Le fameux 10 août 92. Et ça c'est la première raison. Le gouvernement anglais a peur véritablement d'une insurrection, notamment au mois de novembre 1792. De nombreux indices semblent montrer une certaine effervescence populaire. Et derrière cela, eh bien, il y aurait la France, tout simplement. Le gouvernement anglais croit, et Pitt croit, que la France serait derrière.
Et puis vous le rappelez aussi, il y a une invasion par la France des Pays-Bas. Hein, on connaît la formule, Anvers est un pistolet braqué au cœur de l'Angleterre. Ça risque de nuire au commerce de l'Angleterre avec le continent européen. C'est aussi une des raisons principales de l'entrée en guerre de l'Angleterre et de l'Angleterre.
Oui, ça c'est la deuxième raison essentielle. C'est-à-dire que c'est à partir de l'automne 1792 que se produit ce grand retournement de situation, puisque la France est entrée en guerre au mois d'avril 92. Au départ, elle subit des revers. Mais à l'automne 92, eh bien, la République, la jeune République se ressaisit, et notamment l'armée de Dumouriez envahit les Pays-Bas, avec la fameuse victoire de Jemappes, hein, du mois de novembre 1792. Et cette nouvelle consterne littéralement le gouvernement anglais, car les Pays-Bas doivent rester une zone tampon. Si vous voulez, cette diplomatie n'est pas nouvelle, c'est la même que celle qui perdure depuis Louis XIV, d'une certaine façon.
Et à partir de ce moment-là, donc, Pitt va engager son pays, mais fermement, dans une espèce de guerre à outrance qui va durer près de 20 ans contre la France. Alors, comme l'armée britannique n'est pas puissante, elle ne participera pas au combat qui se déroule sur le continent. Là, l'Angleterre va surtout s'efforcer de financer, je crois, ses alliés, c'est-à-dire les membres de toutes les coalitions qui vont se former contre la France.
Oui, oui. L'armée anglaise n'est pas puissante. Il faut d'ailleurs rappeler une chose, c'est qu'en février 1792, c'est-à-dire un an presque jour pour jour avant la déclaration de guerre, Pitt avait présenté son grand budget et il avait décidé de réduire considérablement les crédits militaires. Et lorsque la guerre est déclaré, eh bien, il n'a d'autres ressources finalement que de mener une guerre maritime, une guerre maritime et coloniale. Et d'un autre côté, eh bien, il s'agit désormais, eh bien, de financer le mieux possible les puissances alliées, les coaliser. Alors, c'est sans doute l'une des causes, d'ailleurs, eh bien, de l'échec, bon, de ces grandes campagnes militaires. Car l'Angleterre finalement mène une guerre pourquoi ? On peut se le demander. Elle mène une guerre maritime, mais qui n'a pas du tout d'effet, bon, sur la France. Bon, certes, l'économie française est touchée, mais en même temps, on ne peut pas dire, eh bien, que la France est touchée de plein fouet.
Et surtout, sans empêcher, justement, les victoires françaises sur terre, et surtout l'avènement du pire ennemi de l'Angleterre et de Pitt, le général Bonaparte.
From now on, we must realize we are fighting a nation of armed fanatics, led by an arch fanatic.
Désormais, nous combattons une nation de fanatiques en armes dirigée par un fou furieux. Laissons tout le reste de côté pour nous consacrer à notre devoir. Soyez prévenus, Bonaparte n'épargnera personne. Il engendra les cadavres pour assouvir son ambition. Il faut le briser ou il nous brisera.
De tous les, si on en fait cet extrait de film, de tous les adversaires qu'ait pu avoir Napoléon, Pitt a sans doute été le plus résolu.
Le plus résolu, sans doute, oui. Lorsqu'il revient au pouvoir, car Pitt, il faut le rappeler, a d'abord été au pouvoir pendant 17 ans, jusqu'en 1801.
Oui, mais avant même, là c'est un moment où, effectivement, c'est après les victoires de Napoléon en Italie, on déteste Napoléon. Il va même, d'ailleurs, organiser contre lui, on est à la veille de la proclamation de l'Empire, il va organiser contre lui des complots. Il va payer des gens comme Cadoudal, comme Pichegru, pour renverser Bonaparte. Et Bonaparte en était conscient, il disait, j'ai toujours été vaincu par l'or anglais, sous-entendu par toutes les manœuvres de Pitt. Mais c'est vrai que c'est vraiment presque un combat singulier qui s'engage à ce moment-là. Alors, il quitte, vous le dites, le pouvoir en 1801. Je crois que c'est à cause d'un problème sur l'Irlande.
Oui, c'est un problème essentiel aux yeux de Pitt, c'est-à-dire que l'Irlande a connu également, eh bien, un radicalisme extrêmement, extrêmement puissant, qui a mené véritablement, eh bien, vers un mouvement qu'on peut qualifier à la fois de républicain et de nationaliste. Bon, on est d'ailleurs à l'origine, eh bien, très très lointaine de l'IRA, d'une certaine façon. Et en 1798, l'Irlande connaît une insurrection extrêmement sanglante. Et c'est à la suite de cette insurrection que Pitt décide deux choses. La première, eh bien, c'est désormais d'unir l'Irlande à la Grande-Bretagne. C'est de là que la Grande-Bretagne, eh bien, cesse d'exister pour devenir le Royaume-Uni. C'est d'ailleurs l'une des réalisations...
Le traité d'union, on en a parlé la semaine dernière dans une émission sur l'Irlande, le traité d'union de 1800.
Et voilà. Et le deuxième objectif de Pitt, et pour lui il était essentiel, c'est d'accorder les mêmes droits aux catholiques irlandais, qui constituent quand même les 4/5 de la population de cette époque. Donc les mêmes droits que les protestants. Et c'est alors, eh bien, alors là qu'un conflit éclate avec Georges III, car Georges III refuse obstinément d'accorder ce qu'on appelait l'émancipation des catholiques. Et c'est pour cette raison que Pitt décide de démissionner. Il estime, eh bien, qu'il ne peut plus gouverner, car sur cette question, c'est vraiment essentiel à ses yeux.
C'est une parenthèse qui a duré 2 ans dans un gouvernement qui a duré 20 ans. Il retourne à sa vie privée. Alors là, j'étais étonné en vous lisant. Au fond, il n'a pas de vie privée. C'est un homme entièrement, qui s'est entièrement consacré à sa vie politique. On s'aperçoit, par exemple, en vous lisant, que c'est un homme qui n'a jamais été marié, qui ne s'intéressait pas aux femmes. On a même dit qu'il était peut-être homosexuel, mais en fait, on ne savait rien de sa vie privée, Edmond Ziemowski.
On ne sait pas grand-chose de sa vie privée. Bon, sans doute, cela est dû aussi à une chose, c'est que certaines de ses lettres, eh bien, n'existent plus. On sait très bien que l'homme qui a écrit la première histoire de Pitt, eh bien, a détruit certaines de ses lettres. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, parce que, bon, sans entrer dans la petite histoire, mais c'est l'un des hommes qui a été accusé d'être le petit ami de William Pitt, c'est l'évêque Tom Lyne.
Et
on n'en sait rien. Mais c'est un homme donc qui s'est vraiment voué corps et âme à la politique, du moins pendant son ministère, on peut dire qu'il n'a quasiment plus de vie privée.
Et une politique qu'il mène d'une manière très intègre, ce qui à l'époque d'ailleurs n'était pas le cas de tous les hommes politiques en Angleterre. Ce qui était très connu, c'est l'intégrité de Pitt. Il refusait par exemple qu'on lui fasse des cadeaux, qu'on lui donne de l'argent, alors qu'il était très endetté. Ça, c'est vraiment assez nouveau dans la vie politique britannique de l'époque.
Oui, il tient ça d'ailleurs de son père, qui déjà cultivait cette intégrité. Mais lui, sans doute, l'a cultivé de manière encore plus systématique. Et bon, il y a beaucoup de sincérité sans doute derrière cette intégrité, mais il y a aussi le souci eh bien, de présenter une image publique qui soit la plus irréprochable qui soit. Bon, d'une certaine manière, on a affaire à l'incorruptible anglais, bon, le pendant de Robespierre d'une certaine façon. Et il est vrai que c'est ce qui est très 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 curieux, eh bien, c'est qu'en même temps, eh bien, cet homme s'est endetté. Bon, il dépensait son argent alors que c'était le parfait gestionnaire des finances anglaises. Il dépensait son argent sans jamais regarder ses factures. Il était volé par ses domestiques.
Et un autre défaut aussi, un de ses rares défauts, il buvait beaucoup. Il était un grand amateur de Porto. Hein, ça, je crois, d'ailleurs, c'est ce qui va nuire à sa santé et qui va expliquer sa disparition rapide. En tout cas, il revient. Il était contre l'arrêt de la guerre contre la paix d'Amiens avec la France. Elle n'a duré, dans son esprit, c'était qu'une trêve, et elle n'a duré que 2 ans, puisque la guerre reprend lorsque William Pitt revient au pouvoir en 1804.
Lord William Pitt, First Lord of England. I am amazed, gentlemen, that you are not wearing this soldier's uniform.
Je suis étonné de ne pas vous voir en tenue de soldat. C'est pour demain. Voici le décret.
As for you, Sir Hammond, Mr. Drake. You have made us the
Grâce à vous, Sir Hammond, nous sommes devenus la risée de l'Europe. Fouché a éventé vos manœuvres maladroites. Cadoudal et Moreau sont en prison, et Pichegru s'est pendu. L'habit militaire vous ira beaucoup mieux. Allez le revêtir.
Carry on, Mr. Dimray.
Écrivez.
To His Imperial Majesty, the Emperor of Russia. To His Imperial Majesty,
à Sa Majesté l'Empereur de Russie et à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.
Une grave nouvelle, sire. L'ambassadeur d'Angleterre en France vient de quitter Paris. Le traité d'Amiens n'existe plus.
Puisque les Anglais veulent nous forcer à sauter le fossé, nous sauterons. Ils nous prendront peut-être quelques colonies, mais je porterai la terreur dans Londres. Et ils verseront des larmes de sang.
Alors c'est la guerre.
Et c'était en effet la reprise de la guerre en 1804, avec une Grande-Bretagne menacée par un débarquement français prévu, on vient de l'entendre, par Napoléon, et qui va échouer grâce à la supériorité navale de la Grande-Bretagne, à la flotte que voulait Pitt, justement, et à cette victoire, justement, de Trafalgar, où Nelson détruit la flotte française à Trafalgar, ce qui contraint Napoléon à renoncer à son projet de débarquement. Trafalgar, à ce moment-là, Pitt est au zénith de sa gloire. Edmond Ziemowski.
Oui, au zénith de sa gloire, lorsque la nouvelle de Trafalgar est connue en Angleterre, on est au mois de novembre 1805, et c'est d'ailleurs la dernière apparition publique de Pitt, où il est acclamé par la foule. Malheureusement, il est au zénith de sa gloire, mais peu de temps après, eh bien, survient Austerlitz. Ouais.
Et là, il va mourir très peu de temps après, persuadé qu'au fond, il a échoué. Or, il est certain quand même qu'il a jeté les bases d'une victoire britannique, de la défaite de la France et due en grande partie à l'action de Pitt. Et même au-delà, Edmond Ziemowski, on peut dire quand même qu'il a préparé l'Angleterre, qu'il a jeté les bases de ce qui deviendra au XIXe siècle, grâce à son commerce, la toute-puissance de l'Angleterre.
Oui, si on fait un bilan de l'œuvre de Pitt, c'est vrai que ce bilan est parfois très très difficile à réaliser, parce qu'on a affaire à une vie inachevée. Mais ce que l'on peut vraiment donner comme bilan vraiment ferme, je dirais, c'est d'abord son œuvre financière, son œuvre économique, qui en effet jetait les bases, on pourrait dire, de l'Angleterre industrielle du XIXe siècle. Au-delà de cela, il y a peut-être aussi une chose qui a transformé en profondeur l'Angleterre. C'est son intégrité, notamment l'éthique de service public qu'il a essayé de développer dans ses réformes administratives, bon, sur lesquelles on n'a pas eu le temps justement de revenir, mais qui ont été vraiment très très importantes. Et enfin, on a affaire également à un réformateur politique, bon certes frustré, parce que malheureusement avec la guerre de la France, contre la France révolutionnaire...
Il ne verra pas la victoire, il ne verra pas Waterloo, il est mort 9 ans avant Waterloo.
Voilà. Et on a donc là un homme qui fait le pont entre le 18e siècle et le 19e. On peut dire qu'il a sans doute accéléré la transition de l'Angleterre vers ce 19e siècle.
Et un homme que l'on retrouve en compagnie de son père dans votre double biographie, Edmond Ziembowski, les Pitt, le père et le fils, les Pitt, l'Angleterre face à la France, 1708-1806, un livre qui vient d'être publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films La folie du roi George de Nicolas Hytner, disponible en DVD chez MGM, Le jeune monsieur Pitt, un vieux film de Carol Reed, et enfin Austerlitz d'Abel Gance, disponible en DVD chez Studio Canal. La question du jour pour jouer aujourd'hui et gagner la collection complète en 20 volumes de l'Histoire universelle édité par Le Figaro. En quelle année fut signé le traité de libre-échange entre l'Angleterre et la France? 1786, 1796 ou 1806? Je répète, en quelle année fut signé le traité de libre-échange entre l'Angleterre et la France? 1786, 1796 ou 1806? Pour donner votre réponse, composez le 32-30, 34 centimes d'euros la minute, et suivez les consignes qui vous seront données. Le 32-30, vous pouvez aussi retrouver toutes les références de cette émission, ainsi que sur notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari, Éric Morin, Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, et à notre réalisatrice Anne Kobylak.